Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
On a des résultats aujourd'hui dans l'enquête là, menée à la suite de l'assassinat de Bernard Cherfan, ce membre là associé à la pègre libanaise ou suspecté de l'être, qui a été assassiné 1er juin dernier dans un restaurant de Laval, la Perle vietnamienne. Un événement qui a choqué le Québec parce que c'est arrivé en pleine heure de souper, des enfants qui étaient présents, des gens qui mangeaient paisiblement autour. Et là, c'est Brittany Lewis, 25 ans, qui a été arrêtée à Pickering, en Ontario, et qui va comparaître.
Je pense que j'ai fait une entrevue, puis j'ai trouvé qu'il y avait eu des mots justes. Le directeur de la police de Laval, il avait dit qu'il avait parlé de, pour faire ça, là, d'un manque total de respect envers la vie humaine, là, un manque total d'égard, de faire son règlement de compte devant tout le monde, tu sais, de vraiment en pleine heure de repas, de débarquer. C'est plus qu'un message en gang rivaux ou autre. Là. C'est un message à toute la société c'est comme un pied de nez à toute la société de dire nous, on respecte rien, on se fout de tout, en plein jour, en plein restaurant.
Ouais, parce qu'il y a une différence entre les messages que se lance le crime organisé, souvent avec des assassinats qui sont conduits comme ça. Là. On a vu, là, il y a un peu plus d'un mois, là, il y a un homme qui avait été retrouvé, par exemple, dans le coffre de sa Tesla incendiée, mais c'était dans le fond d'un rang. Mon point étant que c'était pas en public, c'était
exactement.
Pas quelque chose où il y avait des enfants très près. Il y a des règlements de compte, c'est toujours tragique qu'il y ait des assassinats.
Ils font un pied de nez à la société, ils passent un message à la société. Je pense que les gens de Laval vont être rassurés de savoir qu'il y a des arrestations, que cette affaire-là n'est pas une autre qui reste sans suivi, sans conséquence.
Ouais, Mme Lewis qui va en ce moment être accusée au palais de justice de Laval, là, après avoir comparé en Ontario, de meurtre au premier degré, de complicité après le fait également. Donc, ça laisse croire qu'elle aurait été impliquée directement dans le crime. Est-ce qu'elle avait le doigt sur la gâchette? C'est la question qu'on va se poser.
Ça, c'est pas clair.
On dit que l'enquête n'est pas terminée puis qu'il pourrait y avoir d'autres arrestations autour de ça. Mme Lewis n'a pas d'antécédent criminel au Québec. Et donc, on va continuer là, de suivre ce dossier-là.
En même temps, il y a un questionnement. Là, tu dis, OK, c'est en Ontario, c'est à Pickering que se fait l'arrestation pour quelque chose qui est survenu à Laval.
Oui, mais c'est ce qui arrive là, dans les dernières années, selon les policiers. Il y a beaucoup d'enquêtes qui démontrent qu'il y a des individus accusés à plusieurs reprises là, qui sont soupçonnés de meurtre, accusés, qui font des allées et venues entre le Québec et l'Ontario. Il y a une circulation de la main-d'œuvre criminelle entre les deux provinces qui se fait. Donc, on dirait que c'est encore une fois un cas de figure comme ça. Bernard Cherfan, comme je disais, est suspecté là, d'avoir entretenu des liens avec plusieurs organisations criminelles de haut niveau, aurait accumulé beaucoup de dettes sur les informations des policiers, donc ça pourrait être un motif raisonnable pour ce crime-là, à voir si c'était exactement ça. Donc, il y aurait peut-être d'autres accusations et arrestations à venir dans ce dossier-là. Autre élément policier hier qui a surpris beaucoup au Québec, particulièrement dans les deux municipalités où c'est arrivé, dans le centre du Québec, à Saint-Ferdinand, à Plessisville, perquisition de la GRC, les groupes tactiques lourdement armés qui ont procédé à une opération là, de perquisition.
Antiterroriste,
puis on dit lié à un des groupes terroristes néo-nazis, Atomwaffen, entre autres, qui est un groupe considéré comme terroriste depuis février 2021 ici au Canada, accélérationniste, avec des liens avec des crimes raciaux, religieux, ethniques, haineux. Bref, un groupe assez sombre et aux activités là assurément néfastes. Et il n'y a pas eu d'accusation encore dans ce dossier-là. Donc, des perquisitions qui ont été faites et on est à voir de détails.
Mais ils confirment que les perquisitions, dans leur langage, se sont bien passées, sans accrocs.
Ouais, les sites ont été fouillés, ça s'est terminé vers 19h.
Ils ont trouvé des choses.
ils disent avoir trouvé des choses sans préciser là plus loin là, ils disent pas ce qui a été saisi directement parce qu'ils disent que c'est encore lié à d'autres enquêtes, ça dure depuis 2020 Mario cette enquête là.
Ce matin à LCN, j'ai parlé avec le maire de Saint-Ferdinand. Puis le sujet de l'entrevue que je voulais aborder avec lui, c'est un peu l'atmosphère que ça crée. T'es dans un village de 2000 habitants. Puis, je veux dire, la GRC débarque, là, mais pas la GRC. Quoi. Parce que ce qu'il me disait, c'est qu'au début, les gens pensaient, quand ils ont entendu parler de la GRC dans le village, ils pensaient que c'était une fabrication de stupéfiants.
Ouais, un laboratoire de drogue.
C'est ça. Mais quand les gens ont entendu antiterroriste, c'est comme, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ceci dit, l'endroit perquisitionné, c'est une ancienne école, mais qui sert plus d'école depuis très longtemps, depuis des décennies, qui a servi de camp de vacances pendant un temps, qui a été utilisé comme camp de vacances, et qui maintenant a été revendu à des particuliers qui l'habitent.
Et Atom Waffen, c'est un groupe habituellement où les gens s'entraînent au maniement d'armes d'assaut habituellement, donc on peut comprendre qu'ils étaient inquiets de trouver l'autre côté de la porte, peut-être des individus armés ou du moins entraînés à manier les armes.
Alors, quand ils sont entrés, selon le maire, quand la GRC est entrée, ouvert la porte de l'édifice, sur quoi ils sont tombés? Deux chèvres.
Deux chèvres nazis armés.
Ça, c'est pas dit. Deux chèvres.
Voilà. Bon, c'est sûr que ça disons que l'adrénaline retombe un peu.
Est-ce que la GRC les a pris et je te tiens par la barbichette, là? Parce que
je pense pas qu'il y avait les menottes adaptées pour les petits sabots.
Et donc, là, on sait pas trop parce que il y a des personnes, peut-être deux générations qui vivent dans cette maison-là. Donc, mais la dame, semble-t-il, une des dames qui vit là, l'une des résidentes, est connue dans le village. Mais pas
pour ses activités terroristes.
Non, vraiment pas. Pour ses convictions environnementales. T'es une opposante à des projets d'éoliennes. Pourtant, les éoliennes, tu sais, les éoliennes, ça, c'est vert. Jusqu'à temps que t'en construises.
Ouais.
Donc, si tu construis des éoliennes, si tu construis pas d'éoliennes, les environnementalistes sont pour les éoliennes parce que c'est une énergie verte. Si tu construis des éoliennes, les écologistes sont contre les éoliennes. Bon, là, je peux pas l'expliquer. Ceci dit, madame est écologiste, mais contre les éoliennes.
OK.
Et selon des témoins, c'est une dame proche de la nature qui parle aux arbres.
Voilà.
Mais là, posez pas encore la question, est-ce que ce sont des arbres néo-nazis? Je ne sais pas.
Bon, l'histoire ne le dit pas dans ce cas-ci.
Ça ne dit pas, elle parle aux arbres.
Voilà.
Mais sinon, donc, ce qu'on sait, c'est que les gens de la GRC ont été accueillis par deux chèvres.
Deux chèvres, des arbres qui parlent ou qui parlent pas, on le sait toujours pas. Mais bref, il y a des choses qui ont été saisies, on ne sait toujours pas c'est quoi.
En fait, on sait qu'elle parle aux arbres. J'ai pas de témoignage de savoir si les arbres répondent ou pas. Ça reste là.
Ils ont le droit de garder le silence si ça leur tente.
C'est vrai.
Il y avait un point de presse aujourd'hui.
En fait, même les arbres, si les arbres ont un avocat, ils vont les encourager à garder le silence.
Merci Mario.
Un bon avocat va dire aux arbres, gardez le silence.
Voilà. Le point de presse aujourd'hui de la Santé publique fédérale n'était pas sur les arbres, Mario, mais bien sur quelque chose pour lequel on a trop eu de points de presse, je pense, dans les dernières années, la COVID-19, parce que oui, si vous planifiez là, passer votre été sans penser du tout à la pandémie qui semble bien derrière nous, eh bien, on prévient que quand même, là, un risque d'une recrudescence de cas possibles au Canada.
Il y en a une petite au Québec présentement, là.
Oui, il y a une petite recrudescence du nombre de cas, et entre autres, en ce moment, à cause de l'arrivée de deux nouveaux variants. Ça faisait longtemps qu'on l'avait entendu, ce mot-là. Je me sens porteur de mauvaises nouvelles, Mario, en cette fin de saison. Mais les variants BA4 et BA5, qui sont comme deux variants.
Mais Diane Lamar nous en parle depuis un mois, là, de leur arrivée lente, progressive, mais ils viennent d'Europe.
Ça fait partie.
Ils arrivaient lentement, mais sûrement.
Ça fait partie de la famille Omicron. Puis ça a gagné du terrain, ces deux variants-là, dans les dernières semaines. On constate, entre autres, cette hausse-là, tu le dis, en Europe, notamment au Portugal. Au Portugal, le BA5 est devenu le variant dominant. Et donc...
D'ailleurs, en Europe, là, les autres pays d'Europe l'appellent présentement le variant portugais.
Ouais.
C'est lui qui veut, comme en France, il y a une augmentation des cas, puis il parle du variant portugais.
Ouais, parce que comme dans le cas de presque tous les variants de la COVID, là, quand on a un variant qui a ce qu'on appelle un avantage de croissance par rapport aux autres, il finit par prendre, disons, le dessus et devenir la souche prédominante. Et on dit qu'il y a quand même un facteur d'échappement immunitaire, donc qui passerait outre soit vaccin, soit immunité qu'on a.
Soit l'avoir déjà eu.
Ou l'avoir déjà eu et autres. Donc, même si l'été, habituellement, c'est synonyme de ralentissement, on dit de faire attention. attention. Il pourrait y avoir quand même une recrudescence de cas ici au Canada. Et on dit que Santé Canada est d'ailleurs en ce moment en train d'analyser là, une demande de Moderna pour administrer le vaccin chez les enfants de moins de 5 ans. Il y a une réponse qui devrait venir dans les prochaines semaines. D'ailleurs, aujourd'hui, les États-Unis, l'Agence américaine des médicaments a autorisé là, les vaccins contre la COVID-19 et de Pfizer et Moderna pour les tout-petits. Donc, dans la tranche là, des enfants de 6 mois à 5 ans, Pfizer, c'est 3 doses pour le donner. Moderna, c'est 2 doses. Donc, ça permettrait là, de couvrir cette dernière frange de la population qui n'avait pas accès au vaccin. Il faut quand même attendre que le Centre de prévention de la lutte contre les maladies, là, les CDC aux États-Unis, donne leur accord.
Tout savoir en 24 minutes.
Hier, à pareille heure, Marion surveillait cette dépression, je vais le dire comme ça, un terme doux, là, l'alerte météo.
D'abord, il faisait noir.
Il faisait très noir.
En plein jour, il faisait vraiment très, très sombre. C'était impressionnant.
Et puis, il s'est mis à pleuvoir des clous, là, littéralement, là,
mais
par la suite.
Il n'y a pas eu de grêle, là, à Montréal.
Il n'y a pas eu de grêle à Montréal.
Il y en a eu juste au nord.
Mais il y a quand même, là, après les avertissements, ça sonnait même sur les téléphones cellulaires des gens de la région de Montréal. Ça s'est abattu, là, sur le sud du Québec. Donc, beaucoup de pluie. Beaucoup, beaucoup, là, de manière là, très forte. Il y a eu des clients qui ont été privés d'électricité. Là, ça a monté rapidement. Ça a atteint plus de 41 000 foyers en début de soirée. Et puis, ça a principalement touché, finalement, la Montérégie, les Laurentides, Montréal également. Et non, il n'y a pas eu vraiment de grêle ici à Montréal. Il y en a eu dans quelques-unes régions.
Il y a eu assez d'eau pour qu'elle s'accumule à certains endroits, là.
Ben voilà, Mario, parce que moi, après l'émission, hier, là, je parlais de mon cas de figure. J'ai voulu prendre le métro. Et le métro était complètement paralysé. Même, on
je
dit
que c'était juste la ligne bleue.
On dit que c'était la ligne bleue, mais hier, la ligne verte aussi sur laquelle j'étais, on parlait d'infiltration d'eau, le système entier était ralenti, il y avait des gens sur les rames. On a fait finalement une station, ça s'est réarrêté. Une autre, ça s'est réarrêté.
Parce qu'il y avait quelques inondations dans des viaducs, là, des viaducs qui descendent, puis c'est des lieux d'accumulation d'eau naturelle.
Ouais, il y avait des photos qui circulaient sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, d'automobilistes qui ont dû laisser leur voiture sur place parce qu'ils étaient complètement pris, justement, là, dans cette accumulation d'eau sous les viaducs. Donc, ça a quand même fait ses petits dégâts, même s'il n'y a pas eu, finalement, là, de tornade, à proprement dit, là, comme il y avait eu des alertes hier d'Environnement Canada. Donc, un système qui a fait moins de ravages, quand même, que le derecho du mois dernier.
Ouais, vraiment.
Mais tout de même, ça y a plu hier à Montréal, c'est tombé fort. Il y a un groupe de camionneurs, Mario, qui a été reconnu devant le tribunal pour avoir passé sous le nez des douaniers canadiens plus de 1000 tonnes de tabac de contrebande qui étaient destinées à la réserve de Kahnawake. Tout ça sur une période de 2 ans, entre septembre 2017 et mai 2019. 88
des
camions.
Des gens qui n'ont pas manqué d'imagination et d'effort.
Non, tout un stratagème qui a été révélé devant le tribunal. C'est 88 camions remorques au total qui étaient remplis de tabac en vrac qui partaient des États-Unis. 217 millions de dollars de pertes en droits de taxes fédérales sur le tabac qui en tout là qui ont échappé comme ça au gouvernement, et donc 8 co-accusés qui ont été là finalement là reconnus devant le tribunal. Et ils partaient donc des États-Unis, prenaient deux modes opératoires différents, soit un dans lequel ils faisaient passer deux camionneurs en même temps, un qui avait de la marchandise complètement légitime, de fruits et de légumes.
Semble-t-il que c'est la marchandise pour laquelle il y a le moins de questions. Là. Comme c'est de l'alimentaire, il passe souvent, il amène du frais, les douaniers sont habitués, fruits et légumes, il en passe tous les jours.
Exact.
Donc c'est une de celles qui a le moins de vérifications, donc ils se basaient là-dessus, ils basaient leur système là-dessus.
Et l'autre camionneur le suivait, le passait exactement en même temps, mais avec, à l'intérieur, évidemment, du tabac de contrebande. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils échangeaient leurs remorques juste avant de traverser les lignes. Et puis, l'autre côté des douanes reprenait un peu plus loin.
De telle sorte que celui qui avait les documents, parce que t'as des documents qui parlent de ton contenu, savez, ouais. Celui qui avait les documents les plus sécures avait avait la cargaison la plus douteuse.
Et l'autre avait les fruits et légumes en c'est question. Ça. Autre stratagème, c'était celui de dissimuler tout ça dans un chargement de copeaux de bois. Donc, à l'intérieur même de ces petits copeaux de bois, du tas, dans le fond, qu'il y avait dans la remorque, on cachait le tabac. Ils ont même créé une compagnie fictive pour ça, qui s'appelait Produits forestiers de Drummond.
C'est tellement... Quand j'ai vu ça ce matin dans le journal, c'est tellement un nom inoffensif, tu sais, je veux dire... tu sais, je te dirais, tu vas faire une visite dans, je vais te faire visiter une entreprise des produits forestiers de Drummond.
Je me pose pas de questions. Non, là, c'est ça pourrait tellement être légitime comme nom d'entreprise. Ils sont pas allés chercher loin, là, tu sais, vraiment. Et donc, finalement, ça a pris quand même beaucoup de techniques.
Les produits forestiers de Drummond, ça a jamais vraiment existé, là.
C'était plus produits du tabac de Drummond, ouais, là. Ça aurait dû s'appeler comme ça. Bref, ils ont été, là, donc reconnus devant le tribunal, mais c'est un stratagème, là, assez élaboré, merci, qui a permis, là, de passer comme ça, sans encombre, aux douanes.
Mais ils se sont fait prendre.
Oui, ils se sont fait prendre finalement
À la fin, ils se sont fait prendre.
Mais ça a pris quand même toute une technique. Ça a pris de la filature, de l'analyse de registres téléphoniques, des données de géolocalisation, données financières. Les enquêteurs vraiment qui ont travaillé d'arrache-pied pour être capables de
les arrêter. Ils ont plaidé coupables, ils ont avoué leur crime.
On se souviendra de la frénésie qu'il y avait au début de la pandémie. Je reviens sur une nouvelle COVID. Frénésie pour trouver de l'équipement médical. Oui, l'équipement de protection individuelle, là, on en manquait beaucoup, on a fait toutes sortes de commandes, mais également la pénurie de ventilateurs. Parce qu'au départ, là, aux soins intensifs, c'était la ressource qu'on avait besoin vraiment pour ouvrir
les... Intuber les gens, les garder vivants.
Mais là, en ce moment, ce qu'on apprend, c'est que plus de la moitié des 40 000 ventilateurs qui ont été commandés par Ottawa au début de la pandémie, qui sont en ce moment inutilisés, qui sont stockés dans la réserve fédérale d'urgence. Donc, il y a 2048 ventilateurs qui ont été déployés au Canada, à l'étranger. Il y a 27 687 appareils qui ont été livrés au pays en date de mai 2021. Et donc, c'est un peu plus de 25 000 qui se trouvent en ce moment dans la réserve d'urgence nationale, qu'on n'a pas touché, qui sont là et qui... Vu qu'il n'y a plus de cas, heureusement, là, n'ont pas été utilisés.
On en aura peut-être besoin pour la 7e vague? Ou la 8e? La 9e?
Ouais.
Si on arrive. 10e?
Ben, voilà. Mais le problème, c'est que...
Peut-être jamais.
Ben, on l'espère, Mario, mais il y a un autre problème. C'est que la commande n'est pas complète encore. La commande a été réalisée au printemps 2020. Il y en a encore qui sont censés arriver. Et là, Service public et Approvisionnement Canada essaie d'annuler ce qui reste de la commande parce que ça a coûté quand même 1,1 milliard de dollars. Et là, on se rend compte qu'on en a beaucoup, qu'on les a pas utilisés. Et donc, qu'il faut cesser d'en recevoir. On sait pas si ça va être annulé, ce contrat-là, bel et bien.
Donc, techniquement, on a 25 000 qui servent pas. Puis il y en a d'autres. La commande n'est pas finie.
La commande n'est pas finie, on pourra en recevoir d'autres. Et là, oui, on veut tenter là d'en donner à l'étranger, ceux qui en ont le plus besoin et autres. Mais on peut pas vraiment blâmer
Avec les taux de vaccination, des gens qui se retrouvent aux soins... Il y en a encore, là, mais des gens qui se retrouvent aux soins intensifs sous ventilation, c'est des beaucoup plus petits nombres. Là. C'est pas comparable.
25 000, c'est beaucoup. Et donc, va falloir voir comment on va distribuer tout ça, les administrer et les gérer. Un dernier mot, encore une fois, sur les mesures sanitaires, pandémie. Il y a des gens qui considèrent que les mesures sanitaires, c'est encore trop, ce qui en reste au Canada. Entre autres, le groupe Veteran for Freedom, qui se décrivent eux-mêmes comme un groupe d'anciens combattants canadiens qui sont désireux de rétablir les libertés fondamentales pour tous les Canadiens. Ces gens-là, c'est eux qui étaient, entre autres,
avec... Mais les seules libertés qui les intéressent, c'est les mesures sanitaires. Là.
Voilà.
Il n'y a pas tellement d'autres exemples de liberté. Il n'y a pas grand-chose d'autre à mentionner.
Vous l'aurez compris, c'est des gens qui étaient, entre autres, là, avec les mouvements pour la liberté, le convoi des camionneurs qui est allé occuper les rues du centre-ville d'Ottawa pendant 3 semaines et autres. Et eux veulent retourner à Ottawa... et manifester, et ce jusqu'à la fin de l'été. Ils ont affirmé vouloir établir un camp semi-permanent à l'est d'Ottawa, qu'ils vont appeler Camp Eagle, et veulent continuer d'organiser des événements comme ça de manifestation tout l'été. Ils ont prévu quand même là de rencontrer mercredi prochain jusqu'à 17 députés fédéraux, pour la plupart conservateurs, Mario, à la grande
surprise. Pour leur expliquer leur doléance. Mais sincèrement, là, bon, je ne pense pas qu'il y ait assez de monde pour paralyser la ville d'Ottawa, Mais deux, je comprends les gens d'Ottawa d'être nerveux. Les gens d'Ottawa, tu leur dis manifestation contre les mesures sanitaires, ce qu'ils ont vécu est tellement horrible. Quand je dis les gens, les commerçants, les gens qui souhaitent juste une tranquillité, des tranquillités, qui vivent dans des...
Trois semaines à se faire réveiller par des klaxons.
Des appartements qui sont juste du résidentiel dans ce coin-là. Pour les manifestants, tu te dis ouais.
Ils sont moins. Moi, je les vois, ces groupes-là, à agir sur les réseaux sociaux.
Les mesures sanitaires, là, en fin de semaine, là, allez vous promener aux environs du Grand Prix, des restaurants, des hôtels, il y a du monde en ville, il y a du monde partout.
À partir de demain, vous avez même plus besoin de masque dans le métro?
C'est vrai, à partir de demain. À partir de lundi, il y a d'autres mesures qui sont levées à Ottawa aussi, il faut que tu dis, OK, on manifeste pourquoi, là, exactement. Il semble que la grosse cause, là, ce sont les fonctionnaires fédéraux qui ont perdu ceux qui n'étaient pas vaccinés ont perdu des revenus.
Ouais, ils sont suspendus sans solde à cause d'obligations vaccinales.
Et là, donc, ces gens-là voudraient qu'ils soient remboursés pour du travail qu'ils n'ont pas fait.
Ils aimeraient qu'ils soient remboursés complètement pour les salaires qui sont perdus. Ça a peu de chance d'arriver.
Salaire perdu. Il n'a pas travaillé, là.
Ouais, exact.
Il ne peut pas travailler.
Disons que ça semble cause perdue pour ça, mais il y en a toutes sortes, de ces événements-là, Mario, d'opposants aux mesures sanitaires qui se multiplient. Demain, là, c'est événement assez marginal, là. Il y a même pas 1000 personnes qui ont affiché vouloir y aller, mais il y a une fameuse manifestation contre les merdias du Québec. Donc, ils sont censés se promener. Ah, un peu partout, TVA, Radio-Canada et autres.
OK, à Montréal.
Oui, ici à Montréal. Ils sont censés faire un petit trajet. Mais il y en a, j'illustre qu'il y en a plusieurs, comme ça, là, des petites manifestations encore d'opposants aux mesures sanitaires, souvent associés au mouvement complotiste, qui vont continuer à manifester.
Le mouvement complotiste, c'est vraiment fort parce que Éric Duhem, qui a fait des manifestations sur ces thèmes-là, avec vraiment beaucoup de monde, quand il en a fait une sur le tramway, je sais qu'il pleuvait, là, il en a fait une contre le tramway à Québec. C'est vraiment un gros sujet, c'est des milliards qui vont être investis, il y a des gens qui sont contre le tramway, mais ça reste, il y a eu 300 personnes. C'est pas, je dis pas que c'est pas beaucoup, 300 personnes de nos jours, c'est une mobilisation, mais c'est quand même, il y en a eu moins. Si Éric Duhem, le même jour, avait dit, oublie le tramway, on fait une manifestation contre invente n'importe quoi lié aux mesures sanitaires, il y aurait eu plus de monde.
Oui.
S'il y avait mis une théorie du complot...
La vaccination, contre la vaccination...
N'importe quoi, il y aurait eu plus de monde.
C'est sûr qu'il y aurait eu plus de monde. Puis la preuve que ça a beaucoup de traction, c'est qu'on retrouve ces thématiques-là en plein cœur, en ce moment, de la campagne à la chefferie conservatrice, au Parti conservateur du Canada. Quand Pierre Poilievre va illustrer ses propos en disant « Moi, si je suis élu, puis si je suis premier ministre du Canada, on n'ira jamais au Forum économique mondial à Davos, puis ces gens-là, là-bas, Carlos Schwab, l'économiste en chef, on verra jamais ces gens-là. » Ça peut sembler, bon, dans sa même ligne où il parle des crypto-monnaies, il s'oppose à ces systèmes-là. Mais le problème, c'est que, sans le nommer directement, le Forum économique mondial, c'est comme un ennemi numéro un de certains mouvements complotistes. C'est ceux qui pensent que c'est...
Mais c'est ceux qui pensent le grand complot.
Le grand complot, mais même certains plus précis, comme le Great Reset, le Grand Reset, comme on l'appelle, ou encore cette espèce de d'ordre mondial, ce qu'on appelle en anglais le New World Order, qui pensent que ce Forum économique mondial-là, ce sont les élites cachées du monde qui contrôlent l'économie derrière. Et même, Mario, je vais te le dire, c'est lié avec beaucoup de théories antisémites qui disent Carlos Schwab, George Soros sont des juifs méchants, véreux, qui contrôlent toutes les banques dans l'ombre. Et sans donc le nommer directement, ça peut sembler bizarre que Pierre Poilievre le parte en croisade contre le Forum économique mondial. Ça sort d'où, vous allez vous dire? Ben, c'est que sans le nommer, sans le dire directement, ben, il va chercher les complotistes qui vont l'appuyer. Là.
Non, absolument. Non, ça leur plaît. C'est-à-dire qu'il sait dire des choses que le commun des mortels comprend pas. Il se dit, ben, il est contre ça. Je sais pas pourquoi. C'est pas important. Mais que les gens qui passent leur journée sur des sites complotistes disent, ah, il était avec nous, comment, il était avec nous autres, il a dit ça, là.
C'est un phénomène qu'on appelle, en anglais, le dog whistling.
Oui.
Ouais, le sifflet à chien, donc en référence à l'ultrason, tu sais, que les chiens sont les seuls à entendre quand tu le siffles.
Que les
humains comprennent pas. Mais c'est la même chose, et Trump, entre autres Donald Trump, était passé maître dans cet art-là, nommait lui-même, dans ses conférences de presse, de manière cryptique, disait, il y a une grande tempête qui s'en vient. A great storm is coming. Puis ça, c'est des mots importants dans la mythologie de QAnon, entre autres. Donc, il a fait ce phénomène-là longtemps avec grand succès. Et donc, ça ne m'étonne pas là, de le voir comme ça, là, réutilisé ici au Canada. Petite nouvelle locale et à la fois internationale, Mario, il y a un commerce de jeux vidéo rétro à Montréal qui a eu une très grande surprise. Parce qu'il a vu un client de marque entrer.
Un client connu?
Un client connu, et ça me fait rire parce que ce magasin-là est juste à côté de chez moi, au coin de ma rue, et j'aurais donc pu y aller, puis j'aurais pu apercevoir.
Mais c'est un commerce de jeux vidéo
rétro.
Rétro.
Rétro. Ça va, dans le fond, on peut acheter des vieilles consoles de jeux, là. Quand je dis vieilles, évidemment, ça va être des Sega Genesis,
qui marchent encore.
Nintendo, qui fonctionnent encore, puis ça, il y a un grand intérêt dans le marché du jeu vidéo. Les gens adorent jouer à ces consoles rétro-là parce que comme ils s'en fait plus, ça devient des objets de collection. Puis c'est un des derniers moyens de jouer à ces vieux jeux-là dans leur forme originale. Et là, il est entré dans son magasin un homme avec un masque dans le visage, casquette très basse sur les yeux, qui était méconnaissable, qui restait là à peu près une demi-heure, qui venait pour s'acheter, entre autres, justement, une vieille console Sega Genesis.
Il y avait les moyens de la payer?
Oui, il y avait les moyens de payer tout ça. Il est resté une demi-heure environ dans son magasinage. Et lorsqu'il est arrivé pour payer ses achats, Ben, le propriétaire ou copropriétaire du magasin, Dominique Bourret, s'est rendu compte que la carte affichait le nom de Lewis Hamilton.
Oh.
Septuple champion du monde de Formule 1 qui était dans son magasin et qui a acheté, entre autres, un jeu de Formule 1, un vieux jeu pour aller avec sa Sega Genesis. Il a acheté cette console-là parce que c'est la console de son enfance, semble-t-il. Et il voulait avoir la console pour jouer en fin de semaine, ici, pendant qu'il est à Montréal au Grand Prix, pour jouer à l'hôtel. Et on l'a su par la suite parce que Lewis Hamilton a lui-même là, parlé de ses achats sur les réseaux sociaux qu'il a démontré, donc déballé tout ça en grande pompe dans sa chambre d'hôtel.
Ouais, c'est bon.
Donc, en plein milieu d'Hochelaga, Maisonneuve, Lewis Hamilton s'est promené pour venir acheter des jeux vidéo usagés. Donc, c'est une grande nouvelle pour le monde du jeu vidéo.
Ouais, des retombées pour l'économie locale.
Des belles retombées pour l'économie locale. Une petite dernière nouvelle, Mario, également avant de finir. Il y a une erreur qui a coûté quand même cher en Californie. Un gérant d'une station d'essence qui a perdu son travail parce que il a mis la virgule du prix de l'essence au mauvais endroit.
Et donc, qui a fait quoi plutôt que quoi?
Eh bien, le gallon d'essence qui se vend en ce moment 6,99 le gallon est devenu 69 cents.
Oh!
Et donc, dans la petite localité, donc de Rancho Cordova en Californie, il y a des milliers et des milliers d'automobilistes qui se sont déplacés pour venir donc profiter de ce prix de l'essence-là. C'est resté comme ça pendant 3 heures. Et donc, la station d'essence aurait perdu plus de 16 000 $ de profit autour de ça. Et donc, l'homme, malheureusement, ben a perdu son emploi. Et sa sœur, dans une gentillesse, a parti une campagne GoFundMe sur Internet pour rembourser ce que son frère a perdu. Et donc, ça a presque accumulé le total qui a été perdu. Mais donc, faites attention quand vous placez vos virgules. Ça peut avoir des conséquences néfastes.
Résumé l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.